Jean-Jacques Rousseau. Julie ou la nouvelle Héloïse. Lettre de deux amants habitant dans une petite ville au pied des Alpes. Deuxième partie. Lettre 1. De Saint-Preux à Julie.
J'ai pris et quitté 100 fois la plume. J'hésite dès le premier mot. Je ne sais quel ton je dois prendre. Je ne sais par où commencer. Et c'est à Julie que je veux écrire. Ha ! Malheureux ! Que suis-je devenu ? Il n'est donc plus ce temps où 1000 sentiments délicieux coulaient dans ma plume comme un intarissable torrent. Ces mots doux de confiance et d'épanchement sont passés. Nous ne sommes plus l'un à l'autre. Nous ne sommes plus les mêmes. Et je ne sais plus à qui j'écris. Daignerez-vous recevoir mes lettres ? Vos yeux daigneront-ils les parcourir ? Les trouverez-vous assez réservés, assez circonspectes ? Oserais-je y garder, encore, une ancienne familiarité ? Oserais-je y parler d'un amour éteint ou méprisé ? Et ne suis-je pas plus reculé que le premier jour où je vous écris ? Quelle différence, ô ciel, de ces jours si charmants et si doux à mon effroyable misère !
Hélas !
Je commençais d'exister, et je suis tombé dans l'anéantissement. L'espoir de vivre animait mon cœur, je n'ai plus devant moi que l'image de la mort. Et 3 ans d'intervalle ont fermé le cercle fortuné de mes jours. Ah, que ne les ai-je terminés avant de me survivre à moi-même ! Que n'ai-je suivi mes pressentiments après ces rapides instants de délices où je ne voyais plus rien dans ma vie qui fût digne de la prolonger ? Sans doute, il fallait la borner à ces 3 ans, ou les ôter de sa durée. Il valait mieux ne jamais goûter la félicité que la goûter et la perdre. Si j'avais franchi ce fatal intervalle, si j'avais évité ce premier regard qui fit une autre âme, je jouirais de ma raison, je remplirais les devoirs d'un homme, et je sèmerais peut-être de quelques vertus mon insipide carrière. Un moment d'erreur a tout changé. Mon œil osa contempler ce qu'il ne fallait point voir. Cette vue a produit enfin son effet inévitable. Après m'être égaré par degrés, je ne suis qu'un furieux dont le sens est aliéné, un lâche esclave sans force et sans courage, qui va, traînant dans l'ignominie, sa chaîne et son désespoir. Vain rêve d'un esprit qui s'égare. Désirs faux et trompeurs désavoués à l'instant par le cœur qui les a formés. Que sert d'imaginer à des mots réels de chimériques remèdes qu'on rejetterait quand ils nous seraient offerts ? Ah, qui jamais connaîtra l'amour, t'aura vu et pourra le croire. Qu'il y ait quelque félicité possible que je voulusse acheter au prix de mes premiers feux. Non, non. Que le ciel garde ses bienfaits et me laisse, avec ma misère, le souvenir de mon bonheur passé. J'aime mieux les plaisirs qui sont dans ma mémoire et les regrets qui déchirent mon âme que d'être à jamais heureux sans ma Julie. Viens, image adorée, remplis un cœur qui ne vit que par toi. Suis-moi dans mon exil, console-moi dans mes peines, ranime et soutiens mon espérance éteinte. Toujours ce cœur infortuné sera ton sanctuaire inviolable, d'où le sort ni les hommes ne pourront jamais t'arracher. Si je suis mort au bonheur, je ne le suis point à l'amour qui m'en rend digne. Cet amour est invincible comme le charme qui l'a fait naître. Il est fondé sur la base inébranlable du mérite et des vertus. Il ne peut périr dans une âme immortelle. Il a plus besoin de l'appui, de l'espérance, et le passé lui donne des forces pour un avenir éternel. Mais toi, Julie, ô toi, qui sus aimer une fois, comment ton tendre cœur a-t-il oublié de vivre ? Comment ce feu sacré s'est-il éteint dans ton âme pure ? Comment as-tu perdu le goût de ces plaisirs célestes que toi seul étais capable de sentir et de rendre ? Tu me chasses sans pitié, tu me bannis avec opprobre, tu me livres à mon désespoir et tu ne vois pas dans l'erreur qui t'égare qu'en me rendant misérable tu m'ôtes le bonheur de tes jours ? Ah, Julie, crois-moi, tu chercheras vainement un autre cœur ami du tien. 1000 t'adoreront sans doute, le mien seul te savait aimer. Réponds-moi maintenant, amante abusée ou trompeuse. Que sont devenus ces projets formés avec tant de mystère ? Que sont ces vaines espérances dont tu leurrais si souvent ma crédule simplicité ? Où est cette union sainte et désirée, doux objet de tant d'ardents soupirs, et dont ta plume et ta bouche flattaient mes vœux ? Hélas, sur la foi de tes promesses, j'osais aspirer à ce nom sacré d'époux et me croyais déjà le plus heureux des hommes. Dis, cruel, ne m'abusais-tu que pour rendre enfin ma douleur plus vive et mon humiliation plus profonde? Ai-je attiré mes malheurs par ma faute? Ai-je manqué d'obéissance, de docilité, de discrétion? M'as-tu vu désirer assez faiblement pour mériter d'être éconduit, ou préférer mes fougueux désirs à tes volontés suprêmes? J'ai tout fait pour te plaire, et tu m'abandonnes. Tu te chargeais de mon bonheur, et tu m'as perdu. Ingrate, rends-moi compte du dépôt que je t'ai confié, rends-moi compte de moi-même, après avoir égaré mon cœur dans cette suprême félicité que tu m'as montrée et que tu m'enlèves. Ange du ciel, j'eusse méprisé votre sort, j'eusse été le plus heureux des êtres. Hélas, je ne suis plus rien. Un instant m'a tout ôté. J'ai passé sans intervalle du comble des plaisirs aux regrets éternels. Je touche encore au bonheur qui m'échappe. J'y touche encore. Et le perds pour jamais. Ah, si je le pouvais croire, si les restes d'une espérance vaine me soutenaient, ô rocher de Méry, que mon œil égaré mesura tant de fois, que ne servit de vous mon désespoir? J'aurais moins regretté la vie quand je n'en avais pas senti le prix.
Lettre 2 de Milord Edward à Claire.
Nous arrivons à Besançon, et mon premier soin est de vous donner des nouvelles de notre voyage. Il s'est fait, sinon paisiblement, du moins sans accident, et votre ami est aussi sain de corps qu'on peut l'être avec un cœur aussi malade. Il voudrait même affecter à l'extérieur une sorte de tranquillité. Il a honte de son état et se contraint beaucoup devant moi, mais tout décèle ses secrètes agitations. Et si je feins de m'y tromper, c'est pour le laisser aux prises avec lui-même et occuper ainsi une partie des forces de son âme à réprimer l'effet de l'autre. Il fut fort abattu la première journée. Je la fis courte, voyant que la vitesse de notre marche irritait sa douleur. Il ne me parla point, ni moi à lui. Les consolations indiscrètes ne font qu'aigrir les violentes afflictions. L'indifférence et la froideur trouvent aisément des paroles, mais la tristesse et le silence sont alors le vrai langage de l'amitié. Je commençais d'apercevoir hier les premières étincelles de la fureur qui va succéder infailliblement à cette léthargie. À la dîner, à peine y avait-il un quart d'heure que nous étions arrivés, qu'il m'aborda d'un air d'impatience. « Que tardons-nous à partir ?» me dit-il avec un sourire amer. « Pourquoi restons-nous un moment si près d'elle ?» Le soir, il affecta de parler beaucoup, sans dire un mot de Julie. Il recommençait des questions auxquelles j'avais répondu 10 fois. Il voulut savoir si nous étions déjà sur terre de France, et puis il demanda si nous arriverions bientôt à Vevey. La première chose qu'il fait à chaque station, c'est de commencer quelques lettres qu'il déchire ou chiffonne un moment après. J'ai sauvé du feu 2 ou 3 de ces brouillons sur lesquels vous pourrez entrevoir l'état de son âme. Je crois pourtant qu'il est parvenu à écrire une lettre entière. L'emportement qu'annoncent ces premiers symptômes est facile à prévoir, mais je ne saurais dire quel en sera l'effet et le terme. Car cela dépend d'une combinaison du caractère de l'homme, du genre de sa passion, des circonstances qui peuvent naître, de 1000 choses que nulle prudence humaine ne peut déterminer. Pour moi, je puis répondre de ses fureurs, mais non pas de son désespoir. Et quoi qu'on fasse, tout homme est toujours maître de sa vie. Je me flatte cependant qu'il respectera sa personne et mes soins. Et je compte moins pour cela sur le zèle de l'amitié, qui n'y sera pas épargné, que sur le caractère de sa passion et sur celui de sa maîtresse. L'âme ne peut guère s'occuper fortement et longtemps d'un objet sans contracter des dispositions qui s'y rapportent. L'extrême douceur de Julie doit tempérer l'âcreté du feu qu'elle inspire, et je ne doute pas non plus que l'amour d'un homme aussi vif ne lui donne à elle-même un peu plus d'activité qu'elle n'en aurait naturellement sans lui. J'ose compter aussi sur son cœur. Il est fait pour combattre et vaincre. Un amour pareil au sien n'est pas tant une faiblesse qu'une force mal employée. Une flamme ardente et malheureuse est capable d'absorber pour un temps, pour toujours peut-être, une partie de ses facultés, mais elle est elle-même une preuve de leur excellence et du parti qu'il en pourrait tirer pour cultiver la sagesse. car la sublime raison ne se soutient que par la même vigueur de l'âme qui fait les grandes passions, et l'on ne sert dignement la philosophie qu'avec le même feu qu'on sent pour une maîtresse. Soyez-en sûr, aimable Claire, je ne m'intéresse pas moins que vous au sort de ce couple infortuné. Non par un sentiment de commisération, qui peut n'être qu'une faiblesse, mais par la considération de la justice et de l'ordre, qui veulent que chacun soit placé de la manière la plus avantageuse à lui-même et à la société. Ces deux belles âmes sortirent l'une pour l'autre des mains de la nature. C'est dans une douce union, c'est dans le sein du bonheur, que, libres de déployer leurs forces et d'exercer leurs vertus, elles eussent éclairé la terre de leurs exemples. Pourquoi faut-il qu'un insensé préjugé vienne changer les directions éternelles et bouleverser l'harmonie des êtres pensants? Pourquoi la vanité d'un père barbare cache-t-elle ainsi la lumière sous le boisseau et fait-elle gémir dans les larmes les cœurs tendres et bienfaisants nés pour essuyer celles d'autrui? Le lien conjugal n'est-il pas le plus libre ainsi que le plus sacré des engagements? Oui, toutes les lois qui le gênent sont injustes. Tous les pères qui l'osent former ou rompre sont des tyrans. Ce chaste nœud de la nature n'est soumis ni au pouvoir souverain, ni à l'autorité paternelle, mais à la seule autorité du père commun, qui sait commander au cœur, et qui, leur ordonnant de s'unir, les peut contraindre à s'aimer. Que signifie ce sacrifice des convenances de la nature aux convenances de l'opinion? La diversité de fortune et d'état s'éclipse et se confond dans le mariage. Elle ne fait rien au bonheur, mais celle d'humeur et de caractère demeure, et c'est par elle qu'on est heureux ou malheureux. L'enfant qui n'a de règles que l'amour choisit mal, le père qui n'a de règles que l'opinion choisit plus mal encore. Qu'une fille manque de raison, d'expérience pour juger de la sagesse et des mœurs, un bon père doit y suppléer sans doute. Son droit, son devoir même est de dire « Ma fille, c'est un honnête homme » ou « C'est un fripon ». C'est un homme de sens ou c'est un fou. Voilà les convenances dont il doit connaître. Le jugement de toutes les autres appartient à la fille. En criant qu'on troublerait ainsi l'ordre de la société, ces tyrans le troublent eux-mêmes. Que le rang se règle par le mérite et l'union des cœurs par leur choix, voilà le véritable ordre social. Ceux qui le règlent par la naissance ou par les richesses sont les vrais perturbateurs de cet ordre. Ce sont ceux-là qu'il faut décrier ou punir. Il est donc de la justice universelle que ces abus soient redressés. Il est du devoir de l'homme de s'opposer à la violence, de concourir à l'ordre, et s'il m'était possible d'unir ces deux amants en dépit d'un vieillard sans raison, ne doutez pas que je n'achevasse en cela l'ouvrage du ciel, sans m'embarrasser de l'approbation des hommes. Vous êtes plus heureuse, aimable Claire. Vous avez un père qui ne prétend point savoir mieux que vous en quoi consiste votre bonheur. Ce n'est peut-être ni par de grandes vues de sagesse, ni par une tendresse excessive qu'il vous rend ainsi maîtresse de votre sort. Mais qu'importe la cause, si l'effet est le même, et si, dans la liberté qu'il vous laisse, l'indolence lui tient lieu de raison. Loin d'abuser de cette liberté, le choix que vous avez fait à 20 ans aurait l'approbation du plus sage père. Votre cœur, absorbé par une amitié qui n'eut jamais d'égale, à garder peu de place au feu de l'amour. Vous leur substituez tout ce qui peut y suppléer dans le mariage. Moins amante qu'amie, si vous n'êtes la plus tendre épouse, vous serez la plus vertueuse, et cette union qu'a formée la sagesse doit croître avec l'âge et durer autant qu'elle. L'impulsion du cœur est plus aveugle, mais elle est plus invincible. C'est le moyen de se perdre que de se mettre dans la nécessité de lui résister. Heureux ceux que l'amour a sortis comme aurait fait la raison, et qui n'ont point d'obstacles à vaincre et de préjugés à combattre. Tels seraient nos deux amants sans l'injuste résistance d'un père entêté. Tel malgré lui pourrait-il être encore si l'un des deux était bien conseillé. L'exemple de Julie et le vôtre montrent également que c'est aux époux seuls à juger s'ils se conviennent. Si l'amour ne règne pas, la raison choisira seule, c'est le cas où vous êtes. Si l'amour règne, la nature a déjà choisi, c'est celui de Julie. Telle est la loi sacrée de la nature, qu'il n'est pas permis à l'homme d'enfreindre, qu'il n'enfreint jamais impunément, et que la considération des états et des rangs ne peut abroger qu'il n'en coûte des malheurs et des crimes. Quoique l'hiver s'avance et que j'aie à me rendre à Rome, je ne quitterai point l'ami que j'ai sous ma garde, que je ne vois son âme dans un état de consistance sur lequel je puisse compter. C'est un dépôt qui m'est cher par son prix et parce que vous me l'avez confié. Si je ne puis faire qu'il soit heureux, je tâcherai au moins qu'il soit sage et qu'il porte en homme les maux de l'humanité. J'ai résolu de passer ici une quinzaine de jours avec lui, durant lesquels j'espère que nous recevrons des nouvelles de Julie et des vôtres, et que vous m'aiderez toutes deux à mettre quelque appareil sur les blessures de ce cœur malade qui ne peut encore écouter la raison que par l'organe du sentiment. Je joins ici une lettre pour votre ami. Ne la confiez, je vous prie, à aucun commissionnaire, mais remettez-la vous-même.
Fragment joint à la lettre précédente.
Premier fragment. Pourquoi n'ai-je pu vous voir avant mon départ? Vous avez craint que je n'expirasse en vous quittant? Cœur pitoyable, rassurez-vous, je me porte bien, je ne souffre pas, je vis encore, je pense à vous. Je pense au temps où je vous fus cher. J'ai le cœur un peu serré, la voiture m'étourdit, je me trouve abattu. Je ne pourrai longtemps vous écrire aujourd'hui. Demain peut-être aurai-je plus de force, ou n'en aurai-je plus besoin. Fragment 2. Où m'entraînent ces chevaux avec tant de vitesse? Où me conduit avec tant de zèle cet homme qui se dit mon ami? Est-ce loin de toi, Julie? Est-ce par ton ordre? Est-ce en des lieux où tu n'es pas? Ah, fille insensée, je mesure des yeux le chemin que je parcours si rapidement. D'où viens-je? Où vais-je? Et pourquoi tant de diligence? Avez-vous peur, cruelle, que je ne cours pas assez tôt à ma perte? Oh, amitié! Oh, amour! Est-ce là votre accord? Sont-ce là vos bienfaits? Fragment 3. As-tu bien consulté ton cœur en me chassant avec tant de violence? As-tu pu, dis Julie, as-tu pu renoncer pour jamais? Non, non, ce tendre cœur m'aime, je le sais bien. Malgré le sort, malgré lui-même, il m'aimera jusqu'au tombeau, je le vois. Tu t'es laissé suggérer. Quel repentir éternel tu te prépares. Hélas, il sera trop tard. Quoi, tu pourrais oublier? Quoi, je t'aurais mal connu? Ah, songe à toi, songe à moi, songe à... Écoute, il en est temps encore. Tu m'as chassé avec barbarie. Je fuis plus vite que le vent. Dis un mot, un seul mot, et je reviens plus prompt que l'éclair. Dis un mot, et pour jamais nous sommes unis. Nous devons l'être, nous le serons. Ah, l'air emporte mes plaintes, et cependant je fuis. Je vais vivre et mourir loin d'elle, vivre loin d'elle.
Lettre 3 de Milord Édouard à Julie.
Votre cousine vous dira des nouvelles de votre ami. Je crois d'ailleurs qu'il vous écrit par cet ordinaire. Commencez par satisfaire là-dessus votre empressement pour lire ensuite posément cette lettre, car je vous préviens que son sujet demande toute votre attention. Je connais les hommes. J'ai vécu beaucoup en peu d'années. J'ai acquis une grande expérience à mes dépens. Et c'est le chemin des passions qui m'a conduit à la philosophie. Mais de tout ce que j'ai observé jusqu'ici, je n'ai rien vu de si extraordinaire que vous et votre amant. Ce n'est pas que vous ayez ni l'un ni l'autre un caractère marqué dont on puisse au premier coup d'œil assigner les différences, et il se pourrait bien que cet embarras de vous définir vous fît prendre pour des âmes communes par un observateur superficiel. Mais c'est cela même qui vous distingue, qu'il est impossible de vous distinguer, et que les traits du modèle commun, dont quelqu'un manque toujours à chaque individu, brillent tous également dans les vôtres. Ainsi chaque épreuve d'une estampe a ses défauts particuliers qui lui servent de caractère, et s'il en vient une qui soit parfaite, quoiqu'on la trouve belle au premier coup d'œil, il faut la considérer longtemps pour la reconnaître. La première fois que je vis votre amant, je fus frappé d'un sentiment nouveau qui n'a fait qu'augmenter de jour en jour, à mesure que la raison l'a justifié. À votre égard, ce fut tout autre chose encore, et ce sentiment fut si vif que je me trompais sur sa nature. Ce n'était pas tant la différence des sexes qui produisait cette impression, qu'un caractère encore plus marqué de perfection que le cœur sent même indépendamment de l'amour. Je vois bien ce que vous seriez sans votre ami. Je ne vois pas de même ce qu'il serait sans vous. Beaucoup d'hommes peuvent lui ressembler, mais il n'y a qu'une Julie au monde. Après un tort que je ne me pardonnerai jamais, votre lettre vint m'éclairer sur mes vrais sentiments. Je connus que je n'étais point jaloux, ni par conséquent amoureux. Je connus que vous étiez trop aimable pour moi. Il vous faut les prémices d'une âme, et la mienne ne serait pas digne de vous. Dès ce moment, je pris pour votre bonheur mutuel un tendre intérêt qui ne s'éteindra point. Croyant lever toutes les difficultés, je fis auprès de votre père une démarche indiscrète, dont le mauvais succès n'est qu'une raison de plus pour exciter mon zèle. Daignez m'écouter, et je puis réparer encore tout le mal que je vous ai fait. Sondez bien votre cœur, ô Julie, et voyez s'il vous est possible d'éteindre le feu dont il est dévoré. Il fut un temps, peut-être, où vous pouviez en arrêter le progrès, mais si Julie, pure et chaste, a pourtant succombé, comment se relèvera-t-elle après sa chute? Comment résistera-t-elle à l'amour vainqueur et armée de la dangereuse image de tous les plaisirs passés? Jeune amante, ne vous en imposez plus et renoncez à la confiance qui vous a séduite. Vous êtes perdue s'il faut combattre encore. Vous serez avilie et vaincue, et le sentiment de votre bonté étouffera par degrés toutes vos vertus. L'amour s'est insinué trop avant dans la substance de votre âme pour que vous puissiez jamais l'en chasser. Il en renforce et pénètre tous les traits comme une eau forte et corrosive. Vous n'en effacerez jamais la profonde impression sans effacer à la fois tous les sentiments exquis que vous reçûtes de la nature. Et quand il ne vous restera plus d'amour, il ne vous restera plus rien d'estimable. Qu'avez-vous donc maintenant à faire, ne pouvant plus changer l'état de votre cœur? Une seule chose, Julie, c'est de le rendre légitime. Je vais vous proposer pour cela l'unique moyen qui vous reste. Profitez-en tandis qu'il est temps encore. Rendez à l'innocence et à la vertu cette sublime raison dont le ciel vous fit dépositaire, ou craignez d'avilir à jamais le plus précieux de ses dons. J'ai dans le duché d'York une terre assez considérable qui fut longtemps le séjour de mes ancêtres. Le château est ancien, mais bon et commode. Les environs sont solitaires, mais agréables et variés. La rivière Dawes, qui passe au bout du parc, offre à la fois une perspective charmante à la vue et un débouché facile aux denrées. Le produit de la terre suffit pour l'honnête entretien du maître et peut doubler sous ses yeux. L'odieux préjugé n'a point d'accès dans cette heureuse contrée. L'habitant paisible y conserve encore les mœurs simples des premiers temps, et l'on y trouve une image du valet décrit avec des traits si touchants par la plume de votre ami. Cette terre est à vous, Julie, si vous daignez l'habiter avec lui, et c'est là que vous pourrez accomplir ensemble tous les tendres souhaits par où finit la lettre dont je parle. Venez, modèle unique des vrais amants, venez, couple aimable et fidèle, prendre possession d'un lieu fait pour servir d'asile à l'amour et à l'innocence. Venez y serrer à la face du ciel et des hommes le doux nœud qui vous unit. Venez honorer de l'exemple de vos vertus un pays où elles seront adorées et des gens simples portés à les imiter. Puissiez-vous, en ce lieu tranquille, goûter à jamais dans les sentiments qui vous unissent le bonheur des âmes pures. Puisse le ciel y bénir vos chastes feux d'une famille qui vous ressemble. Puissiez-vous y prolonger vos jours dans une honorable vieillesse et les terminer enfin paisiblement dans les bras de vos enfants. Puissent nos neveux, en parcourant avec un charme secret ce monument de la félicité conjugale, dire un jour dans l'attendrissement de leur cœur « Ce fut ici l'asile de l'innocence, ce fut ici la demeure des deux amants. » Votre sort est entre vos mains, Julie. Pesez attentivement la proposition que je vous fais et n'en examinez que le fond. Car d'ailleurs, je me charge d'assurer d'avance et irrévocablement votre ami de l'engagement que je prends. Je me charge aussi de la sûreté de votre départ et de veiller avec lui à celle de votre personne jusqu'à votre arrivée. Là, vous pourrez aussitôt vous marier publiquement sans obstacle, car parmi nous, une fille nubile n'a nul besoin du consentement d'autrui pour disposer d'elle-même. Nos sages lois n'abrogent point celles de la nature, et s'il résulte de cet heureux accord quelques inconvénients, ils sont beaucoup moindres que ceux qu'il prévient. J'ai laissé à Vevey mon valet de chambre, homme de confiance, brave, prudent et d'une fidélité à toute épreuve. Vous pourrez aisément vous concerter avec lui de bouche ou par écrit, à l'aide de Reggianino, sans que ce dernier sache de quoi il s'agit. Quand il sera temps, nous partirons pour vous aller joindre, et vous ne quitterez la maison paternelle que sous la conduite de votre époux. Je vous laisse à vos réflexions, mais je le répète, craignez l'erreur des préjugés et la séduction des scrupules, qui mènent souvent au vice par chemin de l'honneur. Je prévois ce qui vous arrivera si vous rejetez mes offres. La tyrannie d'un père intraitable vous entraînera dans l'abîme que vous ne connaîtrez qu'après la chute. Votre extrême douceur dégénère quelquefois en timidité. Vous serez sacrifié à la chimère des conditions. Il faudra contracter un engagement désavoué par le cœur. L'approbation publique sera démentie incessamment par le cri de la conscience. Vous serez honoré et méprisable. Il vaut mieux être oublié et vertueuse.
Post-scriptum. Dans le doute de votre résolution, je vous écris à l'insu de notre ami, de peur qu'un refus de votre part ne vînt détruire en un instant tout l'effet de mes soins.
Lettre 4 de Julie à Claire.
Ô ma chère, dans quel trouble tu m'as laissée hier au soir, et quelle nuit j'ai passée en rêvant à cette fatale lettre. Non, jamais tentation plus dangereuse ne vint assaillir mon cœur. Jamais je n'éprouvais de pareilles agitations, et jamais je n'aperçus moins le moyen de les apaiser. Autrefois, une certaine lumière de sagesse et de raison dirigeait ma volonté. Dans toutes les occasions embarrassantes, je discernais d'abord le parti le plus honnête et le prenais à l'instant. Maintenant, avili et toujours vaincu, je ne fais que flotter entre des passions contraires. Mon faible cœur n'a plus que le choix de ses fautes, et tel est mon déplorable aveuglement, que si je viens par hasard à prendre le meilleur parti, la vertu ne m'aura point guidé, et je n'en aurai pas moins de remords. Tu sais quel époux mon père me destine, tu sais quel lien l'amour m'a donné. Veux-je être vertueuse? L'obéissance et la foi m'imposent des devoirs opposés. Veux-je suivre le penchant de mon cœur? Qui préférer, d'un amant ou d'un père? Hélas, en écoutant l'amour ou la nature, je ne puis éviter de mettre l'un ou l'autre au désespoir. En me sacrifiant au devoir, je ne puis éviter de commettre un crime, et quelque parti que je prenne, il faut que je meure à la fois malheureuse et coupable. Ah, chère et tendre amie, toi qui fus toujours mon unique ressource, et qui m'as tant de fois sauvée de la mort et du désespoir, considère aujourd'hui l'horrible état de mon âme, et vois si jamais tes secourables soins me furent plus nécessaires. Tu sais si tes avis sont écoutés, tu sais si tes conseils sont suivis, tu viens de voir, au prix du bonheur de ma vie, si je sais déférer aux leçons de l'amitié. Prends donc pitié de l'accablement où tu m'as réduite, achève, puisque tu as commencé, supplée à mon courage abattu, pense pour celle qui ne pense plus que par toi. Enfin, tu lis dans ce cœur qui t'aime, tu le connais mieux que moi. Apprends-moi donc ce que je veux, et choisis à ma place, quand je n'ai plus la force de vouloir, ni la raison de choisir. Relis la lettre de ce généreux anglais, relis-la 1000 fois, mon ange. Ah, laisse-toi toucher au tableau charmant du bonheur que l'amour, la paix, la vertu peuvent me promettre encore. Douce et ravissante union des âmes, délices inexprimables, même au sein des remords, Dieu, que seriez-vous pour mon cœur au sein de la foi conjugale? Quoi? Le bonheur et l'innocence seraient encore en mon pouvoir? Quoi? Je pourrais expirer d'amour et de joie entre un époux adoré et les chers gages de sa tendresse? Et j'hésite un seul moment, et je ne vole pas réparer ma faute dans les bras de celui qui me l'a fait commettre, et je ne suis pas déjà femme vertueuse et chaste mère de famille? Oh, que les auteurs de mes jours ne peuvent-ils me voir sortir de mon avilissement? Que ne peuvent-ils être témoins de la manière dont je saurais remplir à mon tour les devoirs sacrés qu'ils ont remplis envers moi? Et les tiens, filles ingrates et dénaturées, qui les remplira près d'eux tandis que tu les oublies? Est-ce en plongeant le poignard dans le sein d'une mère que tu te prépares à le devenir? Celle qui déshonore sa famille apprendra-t-elle à ses enfants à l'honorer? Digne objet de l'aveugle tendresse d'un père et d'une mère idolâtre, abandonne-les au regret de t'avoir fait naître. Couvre leurs vieux jours de douleur et d'opprobre, et jouis, si tu peux, d'un bonheur acquis à ce prix. Mon Dieu, que d'horreur m'environne! Quitter furtivement son pays, déshonorer sa famille, abandonné à la fois père, mère, ami, parent, et toi-même, et toi, ma douce amie, et toi, la bien-aimée de mon cœur. Toi dont à peine, dès mon enfance, je puis rester éloigné un seul jour, te fuir, te quitter, te perdre, ne plus te voir. Ah non, que jamais. Que de tourments déchirent ta malheureuse amie. Elle sent à la fois tous les maux dont elle a le choix, sans qu'aucun des biens qui lui resteront la console. Hélas, je m'égare. Tant de combats passent ma force et troublent ma raison. Je perds à la fois le courage et le sens. Je n'ai plus d'espoir qu'en toi seule. Ou choisis, ou laisse-moi mourir.
Lettre 5. Réponse de Claire à Julie.
Tes perplexités ne sont que trop bien fondées, ma chère Julie. Je les ai prévues et n'ai pu les prévenir. Je les sens et ne les puis apaiser. Et ce que je vois de pire dans ton état, c'est que personne ne t'en peut tirer, que toi-même. Quand il s'agit de prudence, l'amitié vient au secours d'une âme agitée. S'il faut choisir le bien ou le mal, la passion qui les méconnaît peut se taire devant un conseil désintéressé. Mais ici, quelque parti que tu prennes, la nature l'autorise et le condamne, la raison le blâme et l'approuve, le devoir se tait ou s'oppose à lui-même. Les suites sont généralement à craindre de part et d'autre. Tu ne peux ni rester indécise ni bien choisir. Tu n'as que des peines à comparer, et ton cœur seul en est le juge. Pour moi, l'importance de la délibération m'épouvante, et son effet m'attriste. Quelque sort que tu préfères, il sera toujours peu digne de toi, et ne pouvant ni te montrer un parti qui te convienne, ni te conduire au vrai bonheur, je n'ai pas le courage de décider de ta destinée. Voici le premier refus que tu reçus jamais de ton ami, et je sens bien par ce qu'il me coûte que ce sera le dernier. Mais je te trahirai en voulant te gouverner dans un cas où la raison même s'impose silence, et où la seule règle à suivre est d'écouter ton propre penchant. Ne sois pas injuste envers moi, ma douce amie, et ne me juge point avant le temps. Je sais qu'il est des amitiés circonspectes qui, craignant de se compromettre, refusent des conseils dans les occasions difficiles et dont la réserve augmente avec le péril des amis. Ah, tu vas connaître si ce cœur qui t'aime connaît ces timides précautions. Souffre qu'au lieu de te parler de tes affaires, je te parle un instant des miennes. N'as-tu jamais remarqué, mon ange, à quel point tout ce qui t'approche s'attache à toi. Qu'un père et une mère chérissent une fille unique, il n'y a pas, je le sais, de quoi s'en fort étonner. Qu'un jeune homme ardent s'enflamme pour un objet aimable, cela n'est pas plus extraordinaire. Mais qu'à l'âge mûr, un homme, aussi froid que Monsieur de Volmar, s'attendrisse en te voyant pour la première fois de sa vie. Que toute une famille t'idolâtre unanimement. Que tu sois cher à mon père, cet homme si peu sensible, autant et plus peut-être que ses propres enfants. Que les amis, les connaissances, les domestiques, les voisins et toute une ville entière t'adorent de concert et prennent à toi le plus tendre intérêt. Voilà, ma chère, un concours moins vraisemblable et qui n'aurait point lieu s'il n'avait en ta personne quelque cause particulière. Sais-tu bien quelle est cette cause? Ce n'est ni ta beauté, ni ton esprit, ni ta grâce, ni rien de tout ce qu'on entend par le don de plaire. Mais c'est cette âme tendre et cette douceur d'attachement qui n'a point d'égal. C'est le don d'aimer, mon enfant, qui te fait aimer. On peut résister à tout, hors à la bienveillance, et il n'y a point de moyen plus sûr d'acquérir l'affection des autres que de leur donner la sienne. Mille femmes sont plus belles que toi, plus plusieurs ont autant de grâces. Toi seul, avec les grâces, je ne sais quoi de plus séduisant, qui ne plaît pas seulement, mais qui touche, et qui fait voler tous les cœurs au-devant du tien. On sent que ce tendre cœur ne demande qu'à se donner, et le doux sentiment qu'il cherche le va chercher à son tour. Tu vois, par exemple, avec surprise, l'incroyable affection de Mylord Edward pour ton ami. Tu vois son zèle pour ton bonheur. Tu reçois avec admiration ses offres généreuses. Tu les attribues à la seule vertu. Et ma Julie de s'attendrir. Erreur, abus, charmante cousine. À Dieu ne plaise que j'atténue les bienfaits de Mylord Edward et que je déprise sa grande âme. Mais crois-moi, ce zèle, tout pur qu'il est, serait moins ardent si, dans la même circonstance, il s'adressait à d'autres personnes. C'est ton ascendant invincible et celui de ton ami qui, sans même qu'il s'en aperçoive, le déterminent avec tant de force et lui font faire par attachement ce qu'il croit ne faire que par honnêteté. Voilà ce qui doit arriver à toutes les âmes d'une certaine trempe. Elles transforment, pour ainsi dire, les autres en elles-mêmes. Elles ont une sphère d'activité dans laquelle rien ne leur résiste. On ne peut les connaître sans les vouloir imiter. Et de leur sublime élévation, elles attirent à elles tout ce qui les environne. C'est pour cela, ma chère, que ni toi ni ton ami ne connaîtrez peut-être jamais les hommes, car vous les verrez bien plus comme vous les ferez que comme ils seront d'eux-mêmes. Vous donnerez le ton à tous ceux qui vivront avec vous. Ils vous fuiront ou vous deviendront semblables. Et tout ce que vous aurez vu n'aura peut-être rien de pareil dans le reste du monde. Venons maintenant à moi, cousine. À moi qu'un même sang, un même âge, et surtout une parfaite conformité de goûts et d'humeur, avec des tempéraments contraires, unit à toi dès l'enfance. Congiunti eran gli alberghi, ma più congiunti i cuori, conforme era l'etate, ma il pienser più conforme. Que penses-tu qu'ait produit sur elle, qui a passé sa vie avec toi, cette charmante influence qui se fait sentir à tout ce qui t'approche? Crois-tu qu'il puisse ne régner entre nous qu'une union commune? Mes yeux ne te rendent-ils pas la douce joie que je prends chaque jour dans les tiens en nous abordant? Ne lis-tu pas dans mon cœur attendri le plaisir de partager tes peines et de pleurer avec toi? Puis-je oublier que dans les premiers transports d'un amour naissant, l'amitié ne te fut point importune et que les murmures de ton amant ne purent t'engager à m'éloigner de toi et à me dérober le spectacle de ta faiblesse? Ce moment fut critique, ma Julie. Je sais ce que vaut dans ton cœur modeste le sacrifice d'une honte qui n'est pas réciproque. Jamais je n'eusse été ta confidente si j'eusse été ton amie à demi, et nos âmes se sont trop bien senties en s'unissant pour que rien les puisse désormais séparer. Qu'est-ce qui rend les amitiés si tièdes et si peu durables entre les femmes, je dis entre celles qui sauraient aimer? Ce sont les intérêts de l'amour, c'est l'empire de la beauté, c'est la jalousie des conquêtes. Or, si rien de tout cela nous eût pu diviser, cette division serait déjà faite. Mais quand mon cœur serait moins inepte à l'amour, quand j'ignorerais que vos feux sont de nature à ne s'éteindre qu'avec la vie, ton amant est mon ami, c'est-à-dire mon frère, et qui vit jamais finir par l'amour une véritable amitié. Pour M. d'Orbe, assurément, il aura longtemps à se louer de tes sentiments avant que je songe à m'en plaindre, et je ne suis pas plus tentée de le retenir par force que toi de me l'arracher. Et mon enfant, plût au ciel, qu'au prix de son attachement je te puisse guérir du tien. Je le garde avec plaisir, je le céderai avec joie. à l'égard des prétentions sur la figure, j'en puis avoir tant qu'il me plaira. Tu n'es pas fille à me les disputer. Et je suis bien sûre qu'il ne tentera de tes jours dans l'esprit de savoir qui de nous deux est la plus jolie. Je n'ai pas été tout à fait si indifférente. Je sais là-dessus à quoi m'en tenir, sans en avoir le moindre chagrin. Il me semble même que j'en suis plus fière que jalouse, car enfin, les charmes de ton visage n'étant pas ceux qu'il faudrait au mien, ne m'ôtent rien de ce que j'ai, et je me trouve encore belle de ta beauté, aimable de tes grâces, ornée de tes talents. Je me pars de toutes tes perfections, et c'est en toi que je place mon amour-propre le mieux entendu. Je n'aimerais pourtant guère à faire peur pour mon compte, mais je suis assez jolie pour le besoin que j'ai de l'être. Tout le reste m'est inutile, et je n'ai pas besoin d'être humble pour te céder. Tu t'impatientes de savoir à quoi j'en veux venir. Le voici. Je ne puis te donner le conseil que tu me demandes, je t'en ai dit la raison. Mais le parti que tu prendras pour toi, tu le prendras en même temps pour ton ami. Et quel que soit ton destin, je suis déterminée à le partager. Si tu pars, je te suis. Si tu restes, je reste. J'en ai formé l'inébranlable résolution. Je le dois. Rien ne m'en peut détourner. Ma fatale indulgence a causé ta perte. Ton sort doit être le mien. Et puisque nous fûmes inséparables dès l'enfance, ma Julie, il faut l'être jusqu'au tombeau. Tu trouveras, je le prévois, beaucoup d'étourderies dans ce projet. Mais au fond, il est plus sensé qu'il ne semble, et je n'ai pas les mêmes motifs d'irrésolution que toi. Premièrement, quant à ma famille, si je quitte un père facile, je quitte un père assez indifférent, qui laisse faire à ses enfants tout ce qui leur plaît, plus par négligence que par tendresse. Car tu sais que les affaires de l'Europe l'occupent beaucoup plus que les siennes, et que sa fille lui est bien moins chère que la pragmatique. D'ailleurs, je ne suis pas comme toi fille unique, et avec les enfants qui lui resteront, à peine saura-t-il s'il lui en manque un. J'abandonne un mariage prêt à conclure? Manco mali, ma chère. C'est à Monsieur d'Orbe s'il m'aime à s'en consoler. Pour moi, quoique j'estime son caractère, que je ne sois pas sans attachement pour sa personne, et que je regrette en lui un fort honnête homme, il ne met rien auprès de ma Julie. Dis-moi, mon enfant, l'âme a-t-elle un sexe? En vérité, je ne le sens guère à la mienne. Je puis avoir des fantaisies, mais fort peu d'amour. Un mari peut m'être utile, mais il ne sera jamais pour moi qu'un mari. Et de cela, libre encore et passable comme je suis, j'en puis trouver un par tout le monde. Prends bien garde, ma cousine, que, quoique je n'hésite point, ce n'est pas à dire que tu ne doives point hésiter, ni que je veuille t'insinuer de prendre le parti que je prendrai si tu pars. La différence est grande entre nous, et tes devoirs sont beaucoup plus rigoureux que les miens. Tu sais encore qu'une affection presque unique remplit mon cœur et absorbe si bien tous les autres sentiments qu'ils y sont comme anéantis. Une invincible et douce habitude m'attache à toi dès mon enfance. Je n'aime parfaitement que toi seule, et si j'ai quelque lien à rompre en te suivant, je m'encouragerai par ton exemple. Je me dirai « J'imite Julie » et me croirai justifiée.
Billet de Julie à Claire. Je t'entends, ami incomparable, et je te remercie. Au moins une fois j'aurai fait mon devoir et ne serai pas en tout indigne de toi.
Lettre 6 de Julie à Milord Édouard.
Votre lettre, Milord, me pénètre d'attendrissement et d'admiration. L'ami que vous daignez protéger n'y sera pas moins sensible quand il saura tout ce que vous avez voulu faire pour nous. Hélas, il n'y a que les infortunés qui sentent le prix des âmes bienfaisantes. Nous ne savons déjà qu'à trop de titres tout ce que vaut la vôtre, et vos vertus héroïques nous toucheront toujours, mais elles ne nous surprendront plus. Qu'il me serait doux d'être heureuse sous les auspices d'un ami si généreux, et de tenir de ses bienfaits le bonheur que la fortune m'a refusé. Mais, milord, je le vois avec désespoir, elle trompe vos beaux desseins. Mon sort cruel l'emporte sur votre zèle, et la douce image des biens que vous m'offrez ne sert qu'à m'en rendre la privation plus sensible. Vous donnez une retraite agréable et sûre à deux amants persécutés. Vous y rendez leur feu légitime, leur union solennelle, et je sais que sous votre garde, j'échapperai aisément aux poursuites d'une famille irritée. C'est beaucoup pour l'amour. Est-ce assez pour la félicité? Non. Si vous voulez que je sois paisible et contente, donnez-moi quelque asile plus sûr encore, où l'on puisse échapper à la honte et au repentir. Vous allez au-devant de nos besoins, et par une générosité sans exemple, vous vous privez pour notre entretien d'une partie des biens destinés aux vôtres. Plus riche, plus honoré de bienfaits que de mon patrimoine, je puis tout recouvrer près de vous, et vous daignerez me tenir lieu de père. Ah, milord, serais-je digne d'en trouver un, après avoir abandonné celui que m'a donné la nature? Voilà la source des reproches d'une conscience épouvantée et des murmures secrets qui déchirent mon cœur. Il ne s'agit pas de savoir si j'ai droit de disposer de moi contre le gré des auteurs de mes jours, mais si j'en puis disposer sans les affliger mortellement, si je puis les fuir sans les mettre au désespoir. Hélas, il vaudrait autant consulter si j'ai droit de leur ôter la vie. Depuis quand la vertu pèse-t-elle ainsi les droits du sang et de la nature? Depuis quand un cœur sensible marque-t-il avec tant de soin les bornes de la reconnaissance? N'est-ce pas être déjà coupable que de vouloir aller jusqu'au point où l'on commence à le devenir? Et cherche-t-on si scrupuleusement le terme de ses devoirs quand on n'est point tenté de le passer? Qui, moi, j'abandonnerai impitoyablement ceux par qui je respire, ceux qui me conservent la vie qu'ils m'ont donnée et me la rendent chère, ceux qui n'ont d'autre espoir, d'autre plaisir qu'en moi seul? Un père presque sexagénaire, une mère toujours languissante, moi, leur unique enfant, je les laisserai sans assistance dans la solitude et les ennuis de la vieillesse, quand il est temps de leur rendre les tendres soins qu'ils m'ont prodigués. Je livrerai leurs derniers jours à la honte, au regret, aux pleurs. La terreur, le cri de ma conscience agitée, me peindrait sans cesse mon père et ma mère expirant sans consolation et maudissant la fille ingrate qui les délaisse et les déshonore. Non, milord, la vertu que j'abandonnais m'abandonne à son tour et ne dit plus rien à mon cœur. Mais cette idée horrible me parle à sa place. Elle me suivrait pour mon tourment à chaque instant de mes jours et me rendrait misérable au sein du bonheur. Enfin, si tel est mon destin qu'il faille livrer le reste de ma vie au remords, celui-là seul est trop affreux pour le supporter. J'aime mieux braver tous les autres. Je ne puis répondre à vos raisons, je l'avoue. Je n'ai que trop de penchant à les trouver bonnes. Mais, milord, vous n'êtes pas marié. Ne sentez-vous point qu'il faut être père pour avoir droit de conseiller les enfants d'autrui? Quant à moi, mon parti est pris. Mes parents me rendront malheureuse, je le sais bien. Mais il me sera moins cruel de gémir dans mon infortune que d'avoir causé la leur, et je ne déserterai jamais la maison paternelle. Va donc, douce chimère d'une âme sensible, félicité si charmante et si désirée, va te perdre dans la nuit des songes, tu n'auras plus de réalité pour moi. Et vous, amis trop généreux, oubliez vos aimables projets, et qu'il n'en reste de traces qu'au fond d'un cœur trop reconnaissant pour en perdre le souvenir. Si l'excès de nos maux ne décourage point votre grande âme, si vos généreuses bontés ne sont point épuisées, il vous reste de quoi les exercer avec gloire, et celui que vous honorez du titre de votre ami peut, par vos soins, mériter de le devenir. Ne jugez pas de lui par l'état où vous le voyez. Son égarement ne vient point de lâcheté, mais d'un génie ardent et fier qui se roidit contre la fortune. Il y a souvent plus de stupidité que de courage dans une constance apparente. Le vulgaire ne connaît point de violentes douleurs, et les grandes passions ne germent guère chez les hommes faibles. Hélas, il a mis dans la sienne cette énergie de sentiment qui caractérise les âmes nobles, et c'est ce qui fait aujourd'hui ma honte et mon désespoir. Milord, daignez le croire, S'il n'était qu'un homme ordinaire, Julie n'eût point péri. Non, non, cette affection secrète qui prévint en vous une estime éclairée ne vous a point trompé. Il est digne de tout ce que vous avez fait pour lui sans le bien connaître. Vous ferez plus encore, s'il est possible, après l'avoir connu. Oui, soyez son consolateur, son protecteur, son ami, son père. C'est à la fois pour vous et pour lui que je vous en conjure. Il justifiera votre confiance, il honorera vos bienfaits, il pratiquera vos leçons, il imitera vos vertus, il apprendra de vous la sagesse. Ah, milord, s'il devient entre vos mains tout ce qu'il peut être, que vous serez fier un jour de votre ouvrage.
Lettre 7 de Julie à Saint-Preux.
Et toi aussi, mon doux ami, et toi l'unique espoir de mon cœur, tu viens le percer encore quand il se meurt de tristesse. J'étais préparée au coup de la fortune. De longs pressentiments me les avaient annoncés. Je les aurais supportés, avec patience. Mais toi pour qui je les souffre, ah, ceux qui me viennent de toi me sont seuls insupportables, et il m'est affreux de voir graver mes peines par celui qui devait me les rendre chères. Que de douces consolations je m'étais promises, qui s'évanouissent avec ton courage. Combien de fois je me flattais que ta force animerait ma langueur, que ton mérite effacerait ma faute, que tes vertus relèveraient mon âme abattue. Combien de fois j'essuyais mes larmes amères en me disant « Je souffre pour lui, mais il en est digne. Je suis coupable, mais il est vertueux. Mille ennuis m'assiègent, mais sa constance me soutient, et je trouve au fond de son cœur le dédommagement de toutes mes pertes. » Vain espoir que la première épreuve a détruit. Où est maintenant cet amour sublime qui sait élever tous les sentiments et faire éclater la vertu? Où sont ces fières maximes qu'est devenue cette imitation des grands hommes? Où est ce philosophe que le malheur ne peut ébranler et qui succombe au premier accident qui le sépare de sa maîtresse? Quel prétexte excusera désormais ma honte à mes propres yeux quand je ne vois plus dans celui qui m'a séduite qu'un homme sans courage, amolli par les plaisirs, qu'un cœur lâche, abattu par les premiers revers, qu'un insensé qui renonce à la raison sitôt qu'il a besoin d'elle? Ô Dieu, dans ce comble d'humiliation, devais-je me voir réduite à rougir de mon choix autant que de ma faiblesse? Regarde à quel point tu t'oublies. Ton âme égarée et rampante s'abaisse jusqu'à la cruauté. Tu m'oses faire des reproches. Tu t'oses plaindre de moi, de ta Julie. Barbare, comment tes remords n'ont-ils pas retenu ta main? Comment les plus doux témoignages du plus tendre amour qui fut jamais t'ont-ils laissé le courage de m'outrager? Ah, si tu pouvais douter de mon cœur, que le tien serait méprisable. Mais non, tu n'en doutes pas, tu n'en peux douter. J'en puis défier ta fureur. Et dans cet instant même où je hais ton injustice, tu vois trop bien la source du premier mouvement de colère que j'éprouvais de ma vie. Peux-tu t'en prendre à moi si je me suis perdue par une aveugle confiance et si mes desseins n'ont point réussi? Que tu rougirais de tes duretés si tu connaissais quel espoir m'avait séduite, quel projet j'osais former pour ton bonheur et le mien, et comment ils se sont évanouis avec toutes mes espérances. Quelques jours j'ose m'en flatter encore, tu pourras en savoir davantage, et tes regrets me vengeront de tes reproches. Tu sais la défense de mon père, tu n'ignores pas les discours publics. J'en prévis les conséquences, je te les fis exposer, tu les sentis comme nous, et pour nous conserver l'un à l'autre, il fallut nous soumettre au sort qui nous séparait. Je t'ai donc chassé, comme tu l'oses dire, mais pour qui l'ai-je fait, amant sans délicatesse? Ingrat, c'est pour un cœur bien plus honnête qu'il ne croit l'être, et qui mourrait mille fois plutôt que de me voir avili. Dis-moi, que deviendras-tu quand je serai livré à l'opprobre? Espères-tu pouvoir supporter le spectacle de mon déshonneur? Viens, cruel, si tu le crois, viens recevoir le sacrifice de ma réputation avec autant de courage que je puis te l'offrir. Viens, ne crains pas d'être désavoué de celle à qui tu fus chère. Je suis prête à déclarer à la face du ciel et des hommes tout ce que nous avons senti l'un pour l'autre. Je suis prête à te nommer hautement mon amant, à mourir dans tes bras d'amour et de honte. J'aime mieux que le monde entier connaisse ma tendresse que de t'en voir douter un moment, et tes reproches me sont plus amers que l'ignominie. Finissons pour jamais ces plaintes mutuelles, je t'en conjure, elles me sont insupportables. Ô Dieu, comment peut-on se quereller quand on s'aime et perdre à se tourmenter l'un l'autre des moments où l'on a si grand besoin de consolation? Non, mon ami, que sert de feindre un mécontentement qui n'est pas? Plaignons-nous du sort et non de l'amour. Jamais il ne forma d'union si parfaite, jamais il n'en forma de plus durable. Nos âmes, trop bien confondues, ne sauraient plus se séparer, et nous ne pouvons plus vivre éloignés l'un de l'autre que comme deux parties d'un même tout. Comment peux-tu donc ne sentir que tes peines? Comment ne sens-tu point celles de ton ami? Comment n'entends-tu point dans ton sein ces tendres gémissements? Combien ils sont plus douloureux que tes cris emportés! Combien, si tu partageais mes maux, ils te seraient plus cruels que les tiens mêmes! Tu trouves ton sort déplorable. Considère celui de ta Julie, et ne pleure que sur elle. Considère, dans nos communes infortunes, l'état de mon sexe et du tien, et juge qui de nous est le plus à plaindre. Dans la force des passions, affectée d'être insensible, en proie à mille peines, paraître joyeuse et contente, avoir l'air serein et l'âme agitée, dire toujours autrement qu'on ne pense, déguiser tout ce qu'on sent, être fausse par devoir et mentir par modestie, voilà l'état habituel de toute fille de mon âge. On passe ainsi ses beaux jours sous la tyrannie des bienséances, qu'aggrave enfin celle des parents dans un lien mal assorti. Mais on gêne en vain nos inclinations. Le cœur ne reçoit de loi que de lui-même, il échappe à l'esclavage, il se donne à son gré. Sous un joug de fer que le ciel n'impose pas, on n'a servi qu'un corps sans âme, la personne et la foi restent séparément engagées, et l'on force au crime une malheureuse victime en la forçant de manquer de part ou d'autre au devoir sacré de la fidélité. Il en est de plus sages. Ah, je le sais, elles n'ont point aimé, qu'elles sont heureuses. Elles résistent, j'ai voulu résister. Elles sont plus vertueuses. Aiment-elles mieux la vertu? Sans toi seule, je l'aurais toujours aimée. Il est donc vrai que je ne l'aime plus? Tu m'as perdue, et c'est moi qui te console. Mais moi, que vais-je devenir? Que les consolations de l'amitié sont faibles ou manquent celles de l'amour. Qui me consolera donc dans mes peines? Quel sort affreux j'envisage, moi qui, pour avoir vécu dans le crime, ne vois plus qu'un nouveau crime dans des nœuds abhorrés et peut-être inévitables. Où trouverai-je assez de larmes pour pleurer ma faute et mon amant si je cède? Où trouverai-je assez de force pour résister dans l'abattement où je suis? Je crois déjà voir les fureurs d'un père irrité. Je crois déjà sentir le cri de la nature émouvoir mes entrailles, ou l'amour gémissant déchirer mon cœur. Privé de toi, je reste sans ressources, sans appui, sans espoir. Le passé m'avilit, le présent m'afflige, l'avenir m'épouvante. J'ai cru tout faire pour notre bonheur. Je n'ai fait que nous rendre plus méprisables en nous préparant une séparation plus cruelle. Les vains plaisirs ne sont plus, les remords demeurent, et la honte qui m'humilie est sans dédommagement. C'est à moi d'être faible et malheureuse. Laisse-moi pleurer et souffrir. Mes pleurs ne peuvent non plus tarir que mes fautes se réparer, et le temps même qui guérit tout ne m'offre que de nouveaux sujets de larmes. Mais toi qui n'as nulle violence à craindre, que la honte n'avilit point, que rien ne force à déguiser bassement tes sentiments, toi qui ne sens que l'atteinte du malheur et jouis au moins de tes premières vertus, comment oses-tu dégrader au point de soupirer et gémir comme une femme et de t'emporter comme un furieux? N'est-ce pas assez du mépris que j'ai mérité pour toi, sans l'augmenter en te rendant méprisable toi-même et sans m'accabler à la fois de mon opprobre et du tien? Rappelle donc ta fermeté, sache supporter l'infortune et sois homme. Sois encore, si j'ose le dire, l'amant que Julie a choisi. Ah, si je ne suis plus digne d'animer ton courage, souviens-toi du moins de ce que je fus un jour. Mérite que pour toi j'ai cessé de l'être. Ne me déshonore pas deux fois. Non, mon respectable ami, ce n'est point toi que je reconnais dans cette lettre efféminée que je veux à jamais oublier et que je tiens déjà désavouée par toi-même. J'espère, toute avilie, toute confuse que je suis, j'ose espérer que mon souvenir n'inspire point des sentiments si bas, que mon image règne encore avec plus de gloire dans un cœur que je puisse enflammer et que je n'aurai point à me reprocher, avec ma faiblesse, la lâcheté de celui qui l'a causée. Heureux dans ta disgrâce, tu trouves le plus précieux dédommagement qui soit connu des âmes sensibles. Le ciel dans ton malheur te donne un ami et te laisse à douter si ce qu'il te rend ne vaut pas mieux que ce qu'il t'ôte. Admire et chéris cet homme trop généreux qui daigne aux dépens de son repos prendre soin de tes jours et de ta raison. Que tu serais ému si tu savais tout ce qu'il a voulu faire pour toi. mais que sert d'animer ta reconnaissance en aigrissant tes douleurs. Tu n'as pas besoin de savoir à quel point il t'aime pour connaître tout ce qu'il vaut, et tu ne peux l'estimer comme il le mérite sans l'aimer comme tu le dois.
Lettre 8 de Claire à Saint-Preux.
Vous avez plus d'amour que de délicatesse, et savez mieux faire des sacrifices que les faire valoir. Y pensez-vous d'écrire à Julie sur un ton de reproche dans l'état où elle est? Et parce que vous souffrez, faut-il vous en prendre à elle qui souffre encore plus? Je l'ai dit mille fois, je ne vis de ma vie un amant si grondeur que vous. Toujours prête à disputer sur tout. L'amour n'est pour vous qu'un état de guerre. Ou, si quelquefois vous êtes docile, c'est pour vous plaindre ensuite de l'avoir été. Oh, que de pareils amants sont à craindre, et que je m'estime heureuse de n'en avoir jamais voulu que de ceux qu'on peut congédier quand on veut sans qu'il en coûte une larme à personne. Croyez-moi, changez de langage avec Julie si vous voulez qu'elle vive. C'en est trop pour elle de supporter à la fois sa peine et vos mécontentements. Apprenez une fois à ménager ce cœur trop sensible. Vous lui devez les plus tendres consolations. Craignez d'augmenter vos maux à force de vous en plaindre. Ou du moins, ne vous en plaignez qu'à moi, qui suis l'unique auteur de votre éloignement. Oui, mon ami, vous avez deviné juste. Je lui ai suggéré le parti qu'exigeait son honneur en péril. Ou plutôt, je l'ai forcé à le prendre en exagérant le danger. Je vous ai déterminé vous-même, et chacun a rempli son devoir. J'ai plus fait encore. Je l'ai détourné d'accepter les offres de Mylord Edouard. Je vous ai empêché d'être heureux. Mais le bonheur de Julie m'est plus cher que le vôtre. Je savais qu'elle ne pouvait être heureuse après avoir livré ses parents à la honte et au désespoir. Et j'ai peine à comprendre, par rapport à vous-même, quel destin vous pourriez goûter aux dépens du sien. Quoi qu'il en soit, voilà ma conduite et mes torts. Et puisque vous vous plaisez à quereller ceux qui vous aiment, voilà de quoi vous en prendre à moi seul. Si ce n'est pas cesser d'être ingrat, c'est au moins cesser d'être injuste. Pour moi, de quelque manière que vous en usiez, je serai toujours la même envers vous. Vous me serez chère tant que Julie vous aimera, et je dirai davantage s'il était possible. Je ne me repens d'avoir ni favorisé ni combattu votre amour. Le pur zèle de l'amitié qui m'a toujours guidée me justifie également dans ce que j'ai fait pour et contre vous. Et si quelquefois je m'intéressais pour vos feux plus peut-être qu'il ne semblait me convenir, le témoignage de mon cœur suffit à mon repos. Je ne rougirai jamais des services que j'ai pu rendre à mon ami, et ne me reproche que leur inutilité. Je n'ai pas oublié ce que vous m'avez appris autrefois de la constance du sage dans les disgrâces, et je pourrais, ce me semble, vous en rappeler à propos quelques maximes. Mais l'exemple de Julie m'apprend qu'une fille de mon âge est pour un philosophe du vôtre un aussi mauvais précepteur qu'un dangereux disciple, et il ne me conviendrait pas de donner des leçons à mon maître.
Lettre 9 de Mylord Edouard à Julie.
Nous l'emportons, charmante Julie. Une erreur de notre ami l'a ramenée à la raison. La honte de s'être mise un moment dans son tort a dissipé toute sa fureur et l'a rendue si docile que nous en ferons désormais tout ce qu'il nous plaira. Je vois avec plaisir que la faute qu'il se reproche lui laisse plus de regrets que de dépit, et je connais qu'il m'aime, en ce qu'il est humble et confus en ma présence, mais non pas embarrassé ni contraint. Il sent trop bien son injustice pour que je m'en souvienne, et des torts ainsi reconnus font plus d'honneur à celui qui les répare qu'à celui qui les pardonne.
J'ai profité de cette révolution et de l'effet qu'elle a produit pour prendre avec lui quelques arrangements nécessaires avant de nous séparer, car je ne puis différer mon départ plus longtemps. Comme je compte revenir l'été prochain, nous sommes convenus qu'il irait m'attendre à Paris et qu'ensuite nous irions ensemble en Angleterre. Londres est le seul théâtre digne des grands talents et où leur carrière est la plus étendue. Les siens sont supérieurs à bien des égards et je ne désespère pas de lui voir faire en peu de temps, à l'aide de quelques amis, un chemin digne de son mérite. Je vous expliquerai mes vues plus en détail à mon passage auprès de vous. En attendant, vous sentez qu'à force de succès, on peut lever bien des difficultés et qu'il y a des degrés de considération qui peuvent compenser la naissance, même dans l'esprit de votre père. C'est, ce me semble, le seul expédient qui reste à tenter pour votre bonheur et le sien, puisque le sort et les préjugés vous ont ôté tous les autres. J'ai écrit à Reggianino de venir me joindre en poste, pour profiter de lui pendant 8 ou 10 jours que je passe encore avec notre ami. Sa tristesse est trop profonde pour laisser place à beaucoup d'entretien. La musique remplira les vides du silence, le laissera rêver, et changera par degrés sa douleur en mélancolie. J'attends cet état pour le livrer à lui-même, je n'oserais m'y fier auparavant. Pour Reggianino, je vous le rendrai en repassant, et ne le reprendrai qu'à mon retour d'Italie, tant où, sur les progrès que vous avez déjà faits toutes deux, je juge qu'il ne vous sera plus nécessaire. Quant à présent, sûrement il vous est inutile, et je ne vous prive de rien en vous l'ôtant quelques jours.
Lettre 10 de Saint-Preux à Claire.
Pourquoi faut-il que j'ouvre enfin les yeux sur moi? Que ne les ai-je fermés pour toujours, plutôt que de voir l'avilissement où je suis tombé, plutôt que de me trouver le dernier des hommes, après en avoir été le plus fortuné? Aimable et généreuse amie, qui fut si souvent mon refuge, j'ose encore verser ma honte et mes peines dans votre cœur compatissant. J'ose encore implorer vos consolations contre le sentiment de ma propre dignité. J'ose recourir à vous quand je suis abandonné de moi-même. Ciel, comment un homme aussi méprisable a-t-il pu jamais être aimé d'elle? Ou comment un feu si divin n'a-t-il point épuré mon âme? Qu'elle doit maintenant rougir de son choix, celle que je ne suis plus digne de nommer? Qu'elle doit gémir de voir profaner son image dans un cœur si rampant et bas? Qu'elle doit de dédain et de haine à celui qui put l'aimer et n'être qu'un lâche? Connaissez toutes mes erreurs, charmante cousine, connaissez mon crime et mon repentir, soyez mon juge et que je meure. Ou soyez mon intercesseur et que l'objet qui fait mon sort daigne encore en être l'arbitre. Je ne vous parlerai point de l'effet que produisit sur moi cette séparation imprévue. Je ne vous dirai rien de ma douleur stupide et de mon insensé désespoir. Vous n'en jugerez que trop par l'égarement inconcevable où l'un et l'autre m'ont entraîné. Plus je sentais l'horreur de mon état, moins j'imaginais qu'il fût possible de renoncer volontairement à Julie. Et l'amertume de ce sentiment, jointe à l'étonnante générosité de Milord Édouard, me fit naître des soupçons que je ne me rappelle jamais sans horreur, et que je ne puis oublier sans ingratitude envers l'ami qui me les pardonne. En rapprochant dans mon délire toutes les circonstances de mon départ, j'y crus reconnaître un dessein prémédité, et j'osais l'attribuer au plus vertueux des hommes. À peine ce doute affreux me fut-il entré dans l'esprit, que tout sembla le confirmer. La conversation de Milord avec le baron d'Étanges, le ton peu insinuant que je l'accusais d'y avoir affecté, la querelle qui en dériva, la défense de me voir, la résolution prise de me faire partir, la diligence et le secret des préparatifs, l'entretien qu'il eut avec moi la veille, enfin la rapidité avec laquelle je fus plutôt enlevé qu'emmené, tout me semblait prouver, de la part de Milord, un projet formé de m'écarter de Julie, et le retour que je savais qu'il devait faire auprès d'elle achevait, selon moi, de me déceler le but de ses soins. Je résolus pourtant de m'en éclaircir encore mieux avant d'éclater. Dans ce dessein, je me bornais à examiner les choses avec plus d'attention. Mais tout redoublait mes ridicules soupçons, et le zèle de l'humanité ne lui inspirait rien d'honnête en ma faveur, dont mon aveugle jalousie ne tira quelque indice de trahison. À Besançon, je sus qu'il avait écrit à Julie sans me communiquer sa lettre, sans m'en parler. Je me tins alors suffisamment convaincu, et je n'attendis que la réponse, dont j'espérais bien le trouver mécontent, pour avoir avec lui l'éclaircissement que je méditais. Hier au soir, nous rentrâmes assez tard, et je sus qu'il y avait un paquet de Suisses dont il ne parla point en nous séparant. Je lui laissai le temps de l'ouvrir, je l'entendis de ma chambre murmurer en lisant quelques mots. Je prêtai l'oreille attentivement. « Ah, Julie, disait-il en phrase interrompue, j'ai voulu vous rendre heureuse, je respecte votre vertu, mais je plains votre erreur. » À ces mots, et d'autres semblables que je distinguais parfaitement, je ne fus plus maître de moi. Je pris mon épée sous mon bras, j'ouvris, ou plutôt j'enfonçai la porte, j'entrai comme un furieux. Non, je ne souillerai pas ce papier ni vos regards des injures que me dicta la rage pour le porter à se battre avec moi sur le champ. Oh, ma cousine, c'est là surtout que je pus reconnaître l'empire de la véritable sagesse, même sur les hommes les plus sensibles, quand ils veulent écouter sa voix. D'abord, il ne put rien comprendre à mes discours, et il les prit pour un vrai délire. Mais la trahison dont je l'accusais, les desseins secrets que je lui reprochais, cette lettre de Julie qu'il tenait encore, et dont je lui parlais sans cesse, lui firent connaître enfin le sujet de ma fureur. Il sourit, puis il me dit froidement « Vous avez perdu la raison, et je ne me bats point contre un insensé. Ouvrez les yeux, aveugle que vous êtes, » ajouta-t-il d'un ton plus doux. « Est-ce bien moi que vous accusez de vous trahir ?» Je sentis dans l'accent de ce discours je ne sais quoi qui n'était pas d'un perfide. Le son de sa voix me remua le cœur. Je n'eus pas jeté les yeux sur les siens que tous mes soupçons se dissipèrent et je commençai de voir avec effroi mon extravagance. Il s'aperçut à l'instant de ce changement et il me tendit la main. « Venez, me dit-il. Si votre retour n'eût précédé ma justification, je ne vous aurais vu de ma vie. À présent que vous êtes raisonnable, lisez cette lettre et connaissez une fois vos amis. » Je voulus refuser de la lire, mais l'ascendant que tant d'avantages lui donnait sur moi le lui fit exiger d'un ton d'autorité que, malgré mes ombrages dissipés, mon désir secret n'appuyait que trop. Imaginez en quel état je me trouvais après cette lecture, qui m'apprit les bienfaits inouïs de celui que j'osais calomnier avec tant d'indignité. Je me précipitai à ses pieds, et le cœur chargé d'admiration, de regret et de honte, je serrai ses genoux de toute ma force sans pouvoir proférer un seul mot. Il reçut mon repentir comme il avait reçu mes outrages, et n'exigea de moi, pour prix du pardon qu'il daigna m'accorder, que de ne m'opposer jamais au bien qu'il voudrait me faire. Ah, qu'il fasse désormais ce qui lui plaira. Son âme sublime est au-dessus de celle des hommes, et il n'est pas plus permis de résister à ses bienfaits qu'à ceux de la divinité. Ensuite, il me remit les deux lettres qui s'adressaient à moi, lesquelles il n'avait pas voulu me donner avant d'avoir lu la sienne et d'être instruit de la résolution de votre cousine. Je vis en les lisant quelle amante et quelle amie le ciel m'a donnée. Je vis combien il a rassemblé de sentiments et de vertus autour de moi pour rendre mes remords plus amers et ma bassesse plus méprisable. Dites, quelle est donc cette mortelle unique dont le moindre empire est dans sa beauté, et qui, semblable aux puissances éternelles, se fait également adorer par les biens et par les maux qu'elle fait. Hélas, elle m'a tout ravi, la cruelle, et je l'en aime davantage. Plus elle me rend malheureux, plus je la trouve parfaite. Il me semble que tous les tourments qu'elle me cause soient pour elle un nouveau mérite auprès de moi. Le sacrifice qu'elle vient de faire aux sentiments de la nature me désole et m'enchante. Il augmente à mes yeux le prix de celui qu'elle a fait à l'amour. Non, son cœur ne sait rien refuser qui ne fasse valoir ce qu'il accorde. Et vous, digne et charmante cousine, vous, unique et parfait modèle d'amitié, qu'on citera seul entre toutes les femmes, et que les cœurs qui ne ressemblent pas aux vôtres oseront traiter de chimère. Ah, ne me parlez plus de philosophie. Je méprise ce trompeur étalage qui ne consiste qu'en vains discours, ce fantôme qui n'est qu'une ombre, qui nous excite à menacer de loin les passions et nous laisse comme un faux brave à leur approche. Daignez ne pas m'abandonner à mes égarements. Daignez rendre vos anciennes bontés à cet infortuné qui ne les mérite plus, mais qui les désire plus ardemment et en a plus besoin que jamais. daignez me rappeler à moi-même, et que votre douce voix supplée en ce cœur malade à celle de la raison. Non, je l'ose espérer, je ne suis point tombé dans un abaissement éternel. Je sens ranimer en moi ce feu pur et saint dont j'ai brûlé. L'exemple de tant de vertus ne sera point perdu pour celui qui en fut l'objet, qui les aime, les admire, et veut les imiter sans cesse. Ô chère amante, dont je dois honorer le choix, ô mes amis, dont je veux recouvrer l'estime, mon âme se réveille et reprend dans les vôtres sa force et sa vie. Le chaste amour et l'amitié sublime me rendront le courage qu'un lâche désespoir fut prêt à m'ôter. Les purs sentiments de mon cœur me tiendront lieu de sagesse. Je serai par vous tout ce que je dois être, et je vous forcerai d'oublier ma chute, si je puis m'en relever un instant. Je ne sais ni ne veux savoir quel sort le ciel me réserve. Quel qu'il puisse être, je veux me rendre digne de celui dont j'ai joui. Cette immortelle image que je porte en moi me servira d'égide et rendra mon âme invulnérable au coup de la fortune. N'ai-je pas assez vécu pour mon bonheur? C'est maintenant pour la gloire que je dois vivre. Ah, que ne puis-je étonner le monde de mes vertus afin qu'on pût dire un jour en les admirant « Pouvait-il moins faire ? Il fut aimé de Julie. » Postscriptum. Des nœuds abhorrés et peut-être inévitables. Que signifient ces mots? Ils sont dans sa lettre, claire. Je m'attends à tout. Je suis résigné, prêt à supporter mon sort, mais ces mots. Jamais, quoi qu'il arrive, je ne partirai d'ici que je n'ai eu l'explication de ces mots-là.